Chapitre 39. Les souterrains de l'hôtel d'Ancre. Minuit sonnait, et pourtant une foule de peuple encombrait encore la rue de Tournon et surtout les abords de l'hôtel Concini, splendidement éclairés. Ce peuple se taisait. Il regardait. De chaque côté de la grande porte, une fontaine avait été installée. Chacune de ces fontaines, de minute en minute, rejetait du feu, et ces coulées de feu étaient tantôt rouges, tantôt bleues ou vertes. Dès que la fontaine cessait de rejeter du feu, elle laissait couler du vin, et c'était d'excellents vins d'Espagne. Chacun avait le droit de s'approcher et de remplir son gobelet. Cette magnificence, ce souci d'associer la foule à la fête qu'il donnait, valait au maréchal d'Ancre une sorte de trêve dans la haine populaire. Mais à certains regards, à certaines rumeurs sourdes, à certains frissons qui parcouraient cette foule, on sentait que la haine couvait. Cette fête, pour dire la vérité, fut une réelle féerie. M. Gendron, l'intendant général de l'hôtel, en était vraiment le précieux metteur en scène. Durant toute la fête, l'hôtel fut constamment éclairé à l'intérieur par 800 flambeaux de cire parfumée et colorés de différentes couleurs, et à l'extérieur, par plus de 1000 lanternes vénitiennes. À mesure qu'une invitée montait le grand escalier, dont chaque marche supportait une statue portant des fleurs précieuses, dès que l'invitée mettait le pied sur le palier, une jolie fille vêtue en nymphe s'avançait en lui offrant un bouquet. Chacun de ces bouquets portait au milieu une rose, et sur cette rose, il y avait une goutte de rosée. Cette gouttelette était un diamant. Il y eut trois orchestres, composés chacun de 20 musiciens. Un pour la salle du souper, un pour la salle de danse, un pour la salle de comédie. La salle de danse, immense et fastueusement ornée de tapisseries des Flandres, offrit cette inoubliable invention que le service des rafraîchissements, au lieu d'être confié aux valets, fut fait par des statues de marbre. Et ces statues, c'étaient de belles filles aux formes impeccables qu'au moyen de draperies et de masques blancs, on avait transformées en déesses marmoréennes. Nous ne dirons rien du souper, qui fut un poème de délicate gastronomie. Après les danses, vint le souper. Après le souper, vint la comédie. On joua une farce, alors fort en vogue, mais qui, selon les habitudes des comédiens du temps, fut arrangée et adaptée au goût du superbe amphitryon. Cela s'appelait le capitaine Rossé. Nous avons, en quelques lignes, indiqué le plus rapidement possible les éléments de la fête de Concini. Mais combien nous regrettons de ne pas pouvoir essayer ici une peinture de ces vastes salles où, dans la magie des lumières, dans le parfum des fleurs rares, dans la mélodie des orchestres, tourbillonnait une foule qui, à elle seule, était un tableau d'une suprême élégance et d'une magnificence de coloris auprès desquels nos foules de fêtes modernes, en habit, ne sont que des cohues de croque-morts. Et toute la force, toute la fortune de Concino Concini était là, dans cette opulence radieuse, dans ces sourires qu'il distribuait avec des promesses, dans ce luxe, si écrasant qu'il en devenait admirable, dans cette élégance enveloppante, universelle, de cet homme qui trouva le moyen de glisser un mot à chacun de ses invités, une enivrante flatterie à chacune de ses invités. Au dehors, la foule du peuple regardait de loin et parfois laissait entendre un grondement de menace. Les cours étaient pleines de gardes, de spadassins, de bravi armés en guerre, la main à la crosse du pistolet ou au manche du poignard, prêts à tout. Et au-dessous de cette apothéose triomphale, dans les souterrains de l'hôtel rutilant de lumière, se déroulait un drame effroyable. La plupart des grandes dames accourues à l'invitation de Concini portaient un masque suspendu à leur ceinture. Non seulement il était toléré par la bienséance, mais encore, il était imposé par la mode. On le mettait sur le visage, on l'ôtait, selon le caprice. Nul ne pouvait s'étonner de voir une femme masquée pendant toute la soirée s'il lui plaisait de ne pas montrer son visage. Au moment où les invités se pressaient au délassement, c'est-à-dire à la farce du capitaine Rossé, une de ces femmes, qui n'avait pas encore retiré son masque de velours rouge, assise au dernier rang de la galerie, vêtue avec une simplicité relative, se sentit touchée au bras par quelqu'un. Elle se retourna et vit une dame également masquée, mais de velours noir, qui lui faisait signe de la suivre. Pendant toute la soirée, la dame au masque rouge n'avait cessé de suivre les évolutions de Concini qu'elle ne perdait pas de vue. Sans doute, elle reconnut la dame au velours noir, car elle se leva et la suivit. C'était le moment où, dans son sac, le capitaine recevait une volée de coups de bâton que lui administraient Pulcinello, Arlequin et Pantalon, c'est-à-dire que, dans la grande galerie transformée en salle de spectacle, roulait un tonnerre de rire. Nul ne fit donc attention aux deux femmes qui s'éloignaient, silencieuses, sombres, fatales, l'une avec son masque rouge, l'autre avec son masque noir, pareilles à des anges des ténèbres. Parvenues enfin à une chambre écartée, elles retirèrent leurs masques. Et alors apparut le visage tragique de Léonore à Galigaï. Alors apparut le visage enfiévré de la reine-mère. Marie de Médicis et la Galigaï se regardèrent une minute en silence. Et peut-être les pensées qu'elles lurent l'une chez l'autre leur firent-elles peur, car d'un même mouvement, elles détournèrent la tête. Marie de Médicis avait devant elle la femme de son amant. Léonora Galigaï avait devant elle la maîtresse de son mari. Et toutes deux étaient là, poussées par le même amour. Depuis bien longtemps, Marie savait que Léonora savait. Il y avait entre elles une sorte de concordat qui leur permettait de vivre côte à côte sans se haïr et de se regarder sans rougir. Marie avait toujours évité d'approfondir si Léonora était jalouse ou si elle aimait son mari. Léonora, esprit lucide et ferme, n'avait pourtant jamais eu le courage de comparer son amour à celui de Marie. Ce soir-là, ce soir de fête, en cette minute où les mélodies lointaines leur parvenaient par bouffées, elles démasquèrent leurs âmes comme elles venaient de démasquer leurs visages. Ce fut terrible. Ce fut d'une monstrueuse simplicité et ce fut d'une tragique impudeur. Cela tint en quelques mots qu'elles échangèrent sans éclat de voix, sans geste, sans oser se regarder en face. « Léonore, dit Marie de Médicis, je ne puis vivre ainsi, je souffre trop. »« Moi aussi, Maria, je souffre, dit Léonore à Galigaï. » C'était la première fois que l'épouse appelait ainsi la maîtresse du nom familier, Maria. La reine n'en fut ni choquée ni étonnée, ou pour mieux dire, elle ne s'en aperçut même pas. Il n'y avait plus là une reine et sa dame d'atour, il y avait deux femmes, et quelles femmes ! Tu souffres aussi, reprit la reine, tu l'aimes donc ? Autant que vous pouvez l'aimer, Maria. Seulement, cet amour vous fait vivre, vous. Et moi, je meurs du mien. Votre passion occupe votre cœur trop longtemps vide. Ma passion à moi, mord, lacère, griffe et broie mon cœur. Tu n'es pas jalouse de moi ? Non, Maria. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi, Léonora. Parce qu'il ne vous aime pas. Il y eut une minute d'effroyable silence pendant lequel elles eussent pu entendre leur cœur. Il ne m'aime pas ? Seigneur, que m'apprends-tu là ? Il ne m'aime pas ? Douce Vierge Marie, sainte patronne de ma vie, que vais-je devenir ? Léonore, répète-moi cette chose terrible. Est-ce vrai ? Est-ce possible ? Sois franche et je te ferai donner quelques beaux bénéfices. N'est-ce pas la jalousie qui te fait parler ainsi ? Et toi, est-ce qu'il t'aime ? Dis, oh, dis ! Si peu que ce soit, il doit t'aimer. Moi, Maria, je lui fais horreur. Quant à vous, je me suis mal exprimée. J'ai voulu dire qu'il ne vous aime pas en ce moment. Je respire, je renais. Tu as raison, c'est vrai. L'infidèle n'est pas venu me voir depuis plus d'un mois, Léonore. Il veut donc que je meure, car je ne compte pas la courte et froide visite qu'il me fit il y a 3 jours. Vous savez ce qu'il y a entre votre amour et lui. Terrible obstacle, Maria. Ah oui, Gisèle d'Angoulême. Oui, Maria, s'il a été malade un mois, c'est parce que je lui avais arraché Gisèle. Si vous l'avez revu tout fiévreux de joie il y a 3 jours, c'est parce que je lui ai juré que ce soir, il reverrait Gisèle. Donc, fit la reine les lèvres crispées, cette fête splendide... Cette fête insensée, Maria, c'est pour célébrer la nuit où il doit revoir Gisèle. Encore un silence. La reine reprit. Et tu l'aimes, toi ? De toute ma chair exaspérée de son dédain, de toute ma pensée où il règne depuis Florence, de toute mon âme dont il est l'idole, de tout mon sang qui brûle quand il s'approche et se glace quand il s'en va. » La reine frissonna longuement. « Alors, dit-elle, tu l'aimes sans espoir ?»« Oui, madame, sans espoir. » Encore un silence, très long cette fois. Au loin, les musiques jouaient un air très doux et très lent. Comme les fois précédentes, la reine recommença. « Tu ne me hais pas ?»« Non, Marie, au contraire, je vous suis dévouée. S'il fallait mourir pour vous, je mourrais. Je suis heureuse qu'il soit à vous, puisqu'il ne veut pas être à moi. » « En effet, vous assurez sa fortune, et c'est pourquoi j'aime votre amour pour lui. »« Oh, je te comprends. Je comprends ta vie à présent. Léonore, tu es une âme splendide. Quant à ta fortune, sois tranquille. Ce que j'ai fait jusqu'à ce jour n'est rien auprès de ce que je veux faire. J'ai mon projet, et ce sera un rude coup de tonnerre dans le royaume. Laisse-moi faire. Et alors, tu dis qu'il a une passion pour cette poupée ? Tu dis que sans cette Gisèle, c'est moi seul qui l'aimerais ? Eh bien, par le saint jour de Dieu, qu'elle meure donc ! Léonore, tu vas m'aider. » « Je suis ici pour cela, Maria. » Il y eut alors une détente. Du moment où elles ne parlèrent plus d'elles-mêmes, du moment où elles sortirent de la formidable impudeur de ce colloque, du moment où il ne fut plus question simplement que d'un assassinat, elles se regardèrent. Seulement, si la reine avait à peu près le même visage, à part cette teinte livide qui est comme un reflet du crime, c'est à peine si elle reconnut la figure de Léonore, convulsée, décomposée par l'effort qu'elle avait dû faire. Et alors, tout naturellement, ce fut la galigaille qui reprit. « Gisèle d'Angoulême est ici, madame. Mais vous savez que, d'après l'horoscope de Lorenzo, nous ne pouvons la faire mourir ni par le poison, ni par le fer, ni par la faim ou la soif, ni par le feu, ni par l'eau, ni enfin par aucune mort exigeant l'intervention humaine. » « Et cela est bien vrai, dit Marie de Médicis, puisqu'elle s'est sauvée de la Seine où elle a été jetée. Mais comment faire alors ? J'ai trouvé le genre de mort qui convient et qui ne convient peut-être qu'à elle seule. Et de quoi veux-tu la faire mourir ? De douleur, répondit Léonore. La reine-mère eut un sursaut de terreur sous ce mot qui tomba des lèvres de Léonore. Elle considéra la galigaille comme l'ange du mal et, joignant les mains, elle murmura « Ceci est horrible, Léonore. Je n'ai jamais hésité, tu sais, quand il s'agissait d'intérêts supérieurs. J'ai employé tour à tour le poison et le poignard. C'est moi qui ai donné l'ordre à Lux et à Brun de jeter cette fille à la Seine. Tu vois. Mais faire mourir une créature par la douleur, il me semble, Léonore, que tu usurpes les armes réservées à Dieu seul. » Elle se signa avec une sincère dévotion et rapidement murmura une prière. « Nous n'avons pas le choix, reprit Léonore, glaciale et formidable. Les astres ont parlé. Quant à moi, j'aimerais mieux croire qu'il n'y a pas de soleil au ciel plutôt que de supposer que la science de Lorenzo peut être en défaut. J'ai eu 1000 preuves de son infaillibilité. Et cette dernière encore vient s'ajouter aux autres que Gisèle a échappé à la mort par l'eau. Or, madame, les astres disent que nous ne pouvons la faire mourir par aucun des moyens qui exigent l'emploi de la main humaine. Sans quoi, c'est sur Concino que retomberait le sang versé. Donc, ou Gisèle mourra par un moyen ordinaire et Concino entrera dans la mort en même temps qu'elle, ou elle ne mourra pas, et Concino sera à jamais lié à elle par son amour. Assez, Léonore, assez! Il faut nous conformer aux ordres des puissances supérieures. Mais explique-moi comment cette fille pourra mourir de douleur et quel genre de douleur tu verseras en elle. C'est à l'âme et non au corps qu'il faut frapper Gisèle d'Angoulême. Depuis la nuit où j'ai pu m'emparer d'elle, j'ai passé des heures, quelquefois des jours entiers, à l'étudier. Elle est de celles qui se donnent une fois, une seule fois dans leur vie, mais qui se donnent tout entière. Sa pensée, son âme, un jour, elle les a données et c'est fini. Elle aime, et son amour, à elle, n'est pas comme chez vous, chez moi, chez toutes, une partie de sa vie. C'est toute sa vie. Gisèle n'a qu'une raison de vivre, son amour. L'amour est le piédestal de sa vie. Brisez le piédestal, la statue tombera et se brisera. C'est là une étrange fille, Léonore, fit la reine, pâle de jalousie. Eh bien, supposez que Gisèle d'Angoulême soit mise tout à coup en présence du cadavre de celui qu'elle aime, qu'elle le voit mort. Marie de Médicis frissonna. Léonore, calme, continua sa démonstration. Gisèle mourra, madame, ou son cœur éclatera dans sa poitrine et elle tombera morte sur le corps de son fiancé, ou bien elle traînera quelques jours à peine une misérable existence. Mais non, ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est qu'elle mourra sur le coup, frappée au cœur mieux que par une balle d'arquebuse. Or, madame, vous le savez, le chevalier de Capestan est ici. Marie de Médicis demeura pensive et frissonnante. Un meurtre ne lui faisait pas peur, mais les sombres spéculations de Léonore à Galigaï la faisaient trembler. Pourtant, elle secoua la tête, comme pour écarter les pensées de terreur, et murmura « Mais le chevalier de Capestan lui-même n'est-il pas soumis aux mêmes influences que Gisèle d'Angoulême ?» Lorenzo l'a dit, on ne peut le faire mourir ni par le feu, ni par l'eau, ni par le fer, ni par le poison, ni par la faim, ni par la soif, ni par rien de ce qui exige l'emploi de la main humaine. Je conçois la mort de Gisèle par la douleur, mais pour qu'elle meure, il faut qu'elle soit mise en présence de Capestan mort. Comment le feras-tu mourir, lui ? Léonore à Galigaï répondit « Par l'épouvante ». Léonore avait fait un signe à Marie de Médicis, et la reine s'était mise à la suivre, la tête pleine de bourdonnements funèbres, elle frissonnait, ses yeux hagards se rivaient à Léonore par une sorte de force magnétique. Elle lui apparaissait comme l'inexorable archange de la mort, la conduisant au terme, au-delà duquel on ne va pas plus loin. Et pourtant, elle marchait. Elle eût tout donné pour se reprendre et fuir, mais elle marchait. Léonore entra dans sa chambre à coucher, puis dans sa chambre de toilette, et par un escalier dérobé qu'on eut peut-être d'elle seule, gagna cette petite cour isolée dont nous avons déjà parlé, une courette large à peine de 3 toises et séparée des autres cours par une haute muraille. Là s'ouvraient 2 portes, l'une en fer, porte basse et trapue, jamais ouverte, à en juger par la rouille et les poussières accumulées, donnée sur le fond du cul-de-sac malade qui débouchait sur la gare entière. C'est par là que passait Léonore quand elle quittait secrètement l'hôtel. L'autre porte, en bois vermoulu, disloquée, s'encastrait dans les soubassements de cette partie de l'hôtel et ouvrait sur un escalier aboutissant à une cave étroite où l'on avait entassé toutes sortes de vieux meubles inutiles et à demi pourris. Personne ne venait jamais là, car cette cave encombrée, inutilisable, n'aboutissait à rien. Léonora et la reine descendirent dans cette cave. Entre les escabeaux, les fauteuils démembrés, les tables pourries, parmi cet entassement de choses mortes, il y avait une façon de sentier que le hasard semblait avoir tracé et dans lequel s'engagea Léonore. Elle aboutit ainsi à un vaste bahut dont elle ouvrit le double battant et elle dit « Voici notre chemin, il est temps de remettre votre masque, car il ne faut pas que l'on vous reconnaisse. » La reine obéit silencieusement et couvrit son visage de son masque rouge. Alors Léonore poussa le fond du bahut adossé au mur. Le panneau de bois glissa dans une rainure et une ouverture suffisante pour une personne apparut. Là commençait un étroit escalier tournant. Léonore a saisi la main de la reine et l'entraîna. Marie de Médicis descendit dans les ténèbres. Elle grelottait, elle avait peur. Elle ne voyait plus Léonore, mais elle sentait sa main glacée qui étreignait la sienne. Tout à coup, une faible lueur frappa ses yeux. Elles firent quelques pas de plein pied en suivant un couloir, et enfin, Marie de Médicis vit qu'elle se trouvait dans une pièce qui semblait être une antichambre. Léonore la regardait fixement et dit « Êtes-vous décidée ?» La reine eut une courte hésitation. Mais surmontant cette faiblesse, ce remords peut-être, « Oui, répondit-elle sourdement. « Rappelez-vous, madame, que seule une tête couronnée peut sans danger donner l'ordre. » « Oui, reprit alors la reine avec plus de fermeté. Et puisqu'il en est ainsi, c'est moi que les astres désignent, puisque je suis reine. Vous vous rappelez exactement les paroles que vous devez prononcer, celles-là et pas d'autres ?»« Je me les rappelle, dit la reine, et je suis prête à les prononcer. » Un sourire livide erra sur les lèvres de Léonore à Galigaï. Sourire de triomphe et d'orgueil. Elle était plus subtile et plus puissante que les astres. Elle les trompait. Elle allait tuer Gisèle et Capestan sans employer aucun des moyens dont la main humaine peut se servir pour tuer. Et l'ordre de mort allait être donné sans danger pour Concino. Un roi, avait dit Lorenzo. Un roi? Une tête couronnée? Roi ou reine? Léonore à Galigaï ouvrit une porte. Les deux femmes pénétrèrent alors dans une salle de faible dimension, éclairée par deux flambeaux qui se consumaient tristement, soigneusement dallés, meublés d'un petit lit de repos, d'une table et d'un bon fauteuil. Sur cette salle s'ouvraient trois portes. La première, celle par où elle venait d'entrer. La deuxième, sur le panneau de gauche. La troisième, sur le panneau du fond. Dans le fauteuil était installé un homme qui, à l'aspect de Léonore, se leva. Cet homme, c'était le Nubien Belphégor. Nous devons dire que Léonora et Belphégor connaissaient seuls les substructions de cette partie de l'hôtel. Était-ce la Galigaï qui avait fait agencer ses souterrains dans la portion que nous avons décrite, et surtout dans celle qu'il nous faudra décrire? Ce n'était pas possible. Le secret de pareils travaux eût été infailliblement surpris par Concini ou Rinaldo ou quelque autre des nombreux agents qui pullulaient dans l'hôtel. Il est donc vraisemblable que ces substructions dataient de la fondation même de l'antique logis. Quelque hasard, aidé sans doute par le raisonnement, permit à la Galigaï de découvrir un jour cette partie souterraine où elle venait de s'aventurer. Il lui fut ensuite facile d'y faire les changements, adaptations et aménagements qui lui convenaient. Mais jamais elle ne souffla mot à personne de sa découverte, que sans doute elle dut utiliser plus d'une fois. Nul ne connaissait donc l'existence de ces caveaux où, probablement, elle dut, à différentes reprises, descendre pour s'assurer que le secret de ses vengeances ou de sa politique était toujours bien gardé par ces pierres séculaires dont l'épaisseur avait étouffé bien des sanglots. Léonore à Galigaï, sans s'inquiéter de Belphégor, alla à la porte gauche et poussa un Judas qui, par un mécanisme de double grille, devait être invisible de l'intérieur. « Regardez, » dit-elle à la reine. Marie de Médicis s'approcha et, dans une chambre convenablement meublée, elle vit Gisèle d'Angoulême. Soit fatigue, soit accablement moral, la jeune fille s'était endormie dans un fauteuil. Elle était pâle et amaigrie. Mais, malgré le sommeil et la pâleur, son visage et son attitude exprimaient encore cette indomptable fierté qui était l'essence de son caractère. La reine demeura une minute au Judas, détaillant avidement cette beauté qu'elle comparait peut-être à sa propre beauté si près de se faner, car tout à coup, avec un geste de rage froide, elle se recula. Léonore a souri. Elle attendait sans doute ce mouvement. Elle se retourna vers Belphégor. « Tu t'ennuies, hein ? » fit-elle presque joyeusement. « Patience, cela va finir. Tu vois cette dame qui porte un masque rouge ? « Eh bien, elle va te donner un ordre. Tu lui obéiras comme à moi-même. » Le Nubien s'inclina profondément devant la reine et mit la main sur son cœur. « Que fait le prisonnier ? » reprit Léonore. « Simple, doux comme un agneau. »« Il a donc bu ?»« Oui, voici un peu plus d'une heure. Et depuis, je suis entré chez lui sans qu'il ait fait un mouvement. On pourrait le mener à l'abattoir, il ne s'en apercevrait pas. » Léonora se tourna vers Marie de Médicis et lui dit « Il est temps. »« Belphégor, dit la reine, m'obéiras-tu, quel que soit l'ordre ?» Le Nubien eut un sourire terrible et gronda sourdement « Oui, puisque ma maîtresse l'a dit. » Marie de Médicis eut une dernière lueur d'hésitation. Son regard froid se troubla. La sueur pointa à la racine de ses cheveux. Elle esquissa rapidement un signe de croix, puis, comme répétant une leçon, elle prononça « Écoute donc, Belphégor, tu prendras le chevalier de Capestan, c'est-à-dire le prisonnier, pendant qu'il est sous l'influence de l'élixir qu'il a bu. Tu l'attacheras à la planchette et tu le feras descendre. » Une sorte de rugissement de terreur gronda sur les lèvres du Nubien qui leva sur Léonore des yeux égarés. Mais Léonore ne regardait ni Belphégor ni la reine, elle voulait n'avoir en rien participé à l'ordre de mort. Marie de Médicis continua. « Quand il sera mort, tu le porteras sur son lit. Alors, tu iras chercher Gisèle d'Angoulême, c'est-à-dire la prisonnière, tu la mèneras dans la chambre du mort sans lui faire aucun mal, tu la mettras en présence du cadavre et tu t'en iras en fermant la porte. » Le Nubien haletait. Pourtant, il se courba et murmura « J'obéirai. » Léonore, alors, le regarda avec une sorte de douceur et posa sa main sur le bras nu de Belphégor. « Allons, fit-elle, dans 2 heures tu seras délivré, mon brave serviteur, et songe que ta récompense pour ces quelques jours d'ennui sera telle que tu n'auras jamais plus besoin de servir personne. » Le Nubien secoua la tête, et Léonore vit alors qu'il y avait comme du désespoir dans ses yeux. « Il n'y a qu'une récompense que je désire, gronda-t-il, mais ni vous, ma souveraine maîtresse, ni personne au monde ne peut me la faire obtenir. » « Qui sait ? » fit Léonore avec un sourire enchanteur. Et, avant que le Nubien fût revenu de la stupeur où le plongeait ce mot, Léonora Galigai, saisissant la main de la reine, l'avait entraînée et toutes deux avaient disparu. Rentrées dans l'appartement de Léonore, les deux femmes, la reine et la Galigai, se regardèrent. « Va, prononça la reine, je t'attendrai ici. Mais combien de temps tout cela va-t-il durer ?»« J'ai déjà fait l'expérience de la mort par l'épouvante, » dit Léonore d'une voix qui était comme l'écho d'un rêve. « Une demi-heure suffit. Mettons 1 heure pour le chevalier, qui, paraît-il, est très brave. » « Dans 2 heures, nous pourrons descendre. Il y aura 2 cadavres dans les souterrains. » Et Léonore, remettant sur son visage son masque de velours noir, rentra dans la fête au moment où les orchestres attaquaient une joyeuse marche. La foule enivrée se répandait à travers les somptueuses salles inondées de lumière. Les pierres précieuses étincelaient, les costumes de satin et de soie chatoyaient. On entendait ce long murmure qui est comme le soupir de la joie, la respiration du bonheur. Léonore a traversé les groupes enfiévrés. Elle marchait, silencieuse et lente, et ceux qui, dans cette fête délirante, avaient conservé leur sang-froid, frissonnaient à voir passer ce spectre. Elle vit enfin Concino Concini. Il était vêtu avec une élégance fastueuse qui éclipsait toutes les élégances et toutes les opulences. Il était radieux, resplendissant. Il était vraiment beau. C'était le dieu de cette féerie. Léonore le saisit par le bras au moment où il passait près d'elle. « Toi, » fit-il tout palpitant, « je te cherchais. Que viens-tu m'annoncer, Léonore ? Les 3 jours sont écoulés. Dis, oh, dis, vais-je la voir ?»« Dans 2 heures, tu la verras, » répondit Léonore. Et elle s'éloigna, laissant Concini pantelant d'une joie terrible, livide de bonheur.